Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible le déclare. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Toutes choses alors deviendront nouvelles.
Beaucoup s'interrogent sur la nature de la nouvelle création et de la vie éternelle. Fort heureusement, la Bible nous apporte quelques réponses à ce sujet. Elles se trouvent essentiellement dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre n'est pas toujours facile à comprendre, mais dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques textes qui nous éclaireront sur notre espérance éternelle.
Toutefois, auparavant, Sandra va nous lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 1 à 5. Ensuite, Yann et notre invité Robert nous parleront de la signification de ce texte.
Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. »
Merci et bonjour Robert. Merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Nous venons de lire un extrait du livre de l'Apocalypse, riche en images. Une ville nous est dépeinte, descend dans des cieux. Et voilà que tout à coup, elle semble se transformer en mariée. Puis une voix déclare qu'il s'agit de la tente de Dieu. On se croirait dans un rêve.
Oui, en effet. Il s'agit d'une vision. C'est la raison pour laquelle il faut interpréter ces versets de façon figurative et non littérale. Il faut essayer de comprendre le sens de ces images et surtout se concentrer sur les leçons fondamentales qu'elles renferment.
Par où voulez-vous commencer alors ?
Ce texte évoque l'âge à venir, celui de la résurrection et de la vie éternelle. La première chose à retenir est que Jésus fera toutes choses nouvelles. La terre et les cieux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, disparaîtront et Dieu en recréera de nouveau à la place.
Et que savons-nous au sujet de cette nouvelle création ?
Les images qui suivent la description lue donnent un petit aperçu de ce que sera la nouvelle création et la vie éternelle. Nous remarquons que certains éléments très présents aujourd'hui dans notre âge actuel seront absents de la vie éternelle. Ils ne s'y trouveront plus, ils auront disparu, et nous nous en réjouirons.
Les versets lus expliquent que la mer disparaîtra. Qu'est-ce que cela signifie ?
Il ne faut pas prendre l'exemple de la mer au sens littéral, mais plutôt au sens figuratif. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la mer ou les eaux revêtent un sens imagé, plutôt négatif. Les Juifs craignaient la mer. Elle était la source de tempêtes et de dangers. Elle suscitait angoisse et inquiétude. Alors, si Jean annonce que la mer disparaîtra, cela signifie que dans la nouvelle création, il n'y aura plus de danger, plus rien désormais en elle ne suscitera la peur. Mes chers amis, de quoi avez-vous peur aujourd'hui ? Alors, rassurez-vous, dans la vie éternelle, vous ne connaîtrez plus jamais la peur. Vous y vivrez en sécurité.
Dans la nouvelle création, il n'y aura donc plus de danger. Mais quelque chose d'autre disparaîtra-t-il ?
Oui, la mort et tout ce qui y est associé disparaîtront. Le deuil, les lamentations et les larmes que le décès d'une personne suscite, l'épreuve qui conduit inexorablement vers le dernier soupir, tout cela disparaîtra. La nouvelle création sera un lieu où les ressuscités vivront éternellement. La mort et toute épreuve la causant, ils seront désormais absentes.
Il est difficile d'imaginer un monde sans danger, sans souffrance aucune, où la mort n'existe pas.
C'est exact, Yann. Et pourtant, Voilà l'espérance et l'héritage de tout croyant qui persévérera et demeurera fidèle, malgré les périls et la douleur rencontrés de façon quasi permanente dans cet âge présent.
Nous avons donc cité quelques-uns des éléments qui ne se trouveront plus jamais dans la nouvelle création. Mais que vivrons-nous donc à la place? Quelle est la signification de cette ville dont parlent les versets lus, de l'épouse et de la tente?
Toutes ces images expriment la même idée. Dieu et son peuple habiteront ensemble et ils vivront unis dans un bonheur parfait. Même si, dans cet âge présent, nous marchons avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons voir sa face. Aujourd'hui, nous connaissons Dieu, mais bien imparfaitement, et notre marche avec lui est troublée par le péché qui réside dans notre cœur, et le mal et le malheur qui sévissent autour de nous. Cette vision évoquant une mariée qui rencontre enfin son époux est l'image de l'Église s'avançant vers Jésus-Christ. Actuellement, on peut dire que l'Église traverse une période des fiançailles. Déjà, nous sommes liés à Christ par ses promesses et des engagements réciproques. Mais après le mariage, tout sera tellement merveilleux. Alors, nous entrerons dans la plénitude de notre relation avec lui. Nous jouirons de sa présence parfaite et plus rien ne pourra jamais gâcher cette intimité.
Oui, je vois que cette image du mariage est riche en signification. Mais qu'en est-il de la ville sainte qui descend du ciel?
Nous en parlerons davantage lors d'une prochaine émission, car Jean va davantage développer cet élément de sa vision. Toutefois, nous pouvons affirmer aujourd'hui, en nous rappelant qu'une ville forme une communauté, que dans la nouvelle création, le peuple de Dieu, au nombre considérable et à la diversité incroyable, vivra ensemble et parfaitement uni. Cette ville sera sainte. Dans cette ville, le mal y sera banni. Dans cette ville sainte, le peuple de Dieu vivra ensemble en harmonie, dans la paix et la sécurité. Enfin, Jean parle de cette ville comme de la Nouvelle Jérusalem, la ville où, dans l'Ancien Testament, Dieu y résidait de façon toute particulière parmi les Hébreux. Il s'agit donc là d'une autre image révélant que dans le royaume éternel, Dieu désormais vivra parmi son peuple.
Et puis la dernière image qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle de la tente. Il s'agit une fois de plus de l'image de Dieu qui demeure et vit avec son peuple, me semble-t-il.
C'est exact, Yann. Et cette image, celle de la tente, est probablement plus intime encore que celle donnée avec la grande cité. Car elle représente l'image de l'hôte qui accueille le voyageur et l'invite à séjourner chez lui. Cette image évoque l'hospitalité, la communion et l'amitié.
Pourquoi avoir recours à deux images, celle de la ville et de la tente, si l'une et l'autre véhiculent la même idée?
D'abord, la répétition à travers différentes illustrations favorise l'apprentissage. Dans notre contexte, la leçon est celle-ci. Dieu habitera avec son peuple. Ensuite, comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'image de la tente est plus intime. Des gens peuvent peut-être craindre se perdre dans une ville, ou s'imaginer à travers cette image que Dieu est distant. L'image de la tente, quant à elle, suggère que chacun, en tant qu'individu, va vivre une amitié profonde avec Dieu. Dieu va nous accueillir personnellement chez lui.
Merci Robert de nous avoir si bien rappelé la richesse de la relation que nous allons vivre avec Dieu dans la nouvelle création. Nous en parlerons davantage la prochaine fois.
Merci Yann. Que ces visions dépeignant la vie éternelle nous aident aussi à persévérer et à tenir ferme jusqu'à la fin des temps.
Merci Robert. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique. Nous nous attarderons encore sur les écrits de l'apôtre Jean, en parcourant sa première lettre. Mais d'abord, Sandra va nous lire au chapitre 2, les versets 26 à 28. Puis Claude nous fera part de ses réflexions.
Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement, tel que vous l'avez reçu de l'esprit.
Rappelons-le, l'apôtre Jean a écrit cette lettre à des chrétiens troublés par de faux enseignements. Les versets lus aujourd'hui sont difficiles à interpréter. Ils laissent suggérer que ces croyants n'avaient plus besoin d'être enseignés, puisqu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Ces versets semblent laisser la porte ouverte à l'idée que chacun peut suivre ses propres idées, ses propres sentiments, sous prétexte que l'Esprit de Dieu le conduit. Je pense toutefois que l'apôtre Jean s'opposait à une telle croyance. En fait, il enseigne même le contraire. Rappelons-le, les faux enseignants n'avaient pas sans cesse répété aux croyants qu'ils devaient acquérir des connaissances cachées, faire aussi des expériences mystérieuses dont eux seuls pouvaient les initier. Autrement dit, ces faux enseignants leur faisaient croire qu'il leur manquait quelque chose. Nous pouvons comprendre que de tels propos peuvent jeter la confusion et susciter doute et angoisse. L'apôtre Jean écrit donc cette épître pour rassurer les chrétiens. Il leur rappelle qu'ils ont déjà reçu tout ce dont ils ont besoin, qu'ils doivent de ce fait demeurer fidèles à l'enseignement des Écritures et tenir ferme au lieu de courir après toutes sortes de nouveautés. Mais quelle est cette onction de l'Esprit dont il est question dans ces versets ? Le Nouveau Testament enseigne que tout chrétien authentique, au moment de sa conversion, reçoit le don de l'Esprit de Dieu. Or, ceci est l'onction dont l'apôtre Jean parle. Le Nouveau Testament nous apprend aussi que l'un de ses rôles du Saint-Esprit est d'aider le croyant à comprendre la vérité enseignée à travers la Bible et à discerner le mensonge. Le Saint-Esprit nous aide aussi à mieux comprendre l'enseignement de la Bible à travers les personnes que Dieu a choisies par son Esprit pour l'expliquer. L'apôtre Jean rassure ses croyants troublés. Il leur rappelle que l'Esprit, au moment où ils sont venus à Dieu, les a aidés à comprendre la vérité, et qu'à présent, il serait dangereux pour eux de courir après des enseignements nouveaux et différents. Leur rôle est de faire confiance en Dieu, de lui rester fidèle en gardant l'enseignement déjà reçu. Bien sûr, tout croyant doit faire des progrès dans sa compréhension de la Bible. Il doit grandir dans la foi et obéir à l'enseignement biblique. Toutefois, l'apôtre Jean annonce que parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, parce que nous fréquentons aussi une église où l'enseignement est donné de façon fidèle à la Bible, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il est désormais inutile que nous cherchions des nouveautés religieuses, étranges ou ésotériques.
Merci Claude pour ce rappel important. Nous devons à présent terminer notre émission. Chers amis auditeurs, en attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.